La souveraineté alimentaire, bah, je suppose, je ne connais pas spécialement, mais je suppose que c'est d'être, de ne pas être dépendant d'autres pays pour les aliments.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission classée numéro 2 dans le classement annuel mondial du Gai Savoir, derrière On ne la raconte que numéro 1.
Ah,
et aujourd'hui, et aujourd'hui vous allez voir, vous allez en avoir pour votre portion de TVA. Direction nos frigos, nos placards, nos cocottes et au bout du compte nos estomacs, aujourd'hui on parle bouffe. Mais attention, pas pour se taper la cloche dans un 2 étoiles parisien sans inviter son équipe, ça c'est la méthode de grosse pince de Mathieu Noël.
Évidemment.
Cet après-midi, on parle de comment ce qu'on mange arrive dans nos assiettes. Retour en arrière. Mai 2020, vous vous en souvenez, la Covid-19, le confinement et un truc qu'on n'attendait pas, mais alors pas du tout.
Ces derniers jours, les clients se sont précipités à l'intérieur et ont vidé les rayons.
En 12 ans de transport, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu vois, il n'y a plus de pâtes, je fais beaucoup de pâtes, de l'eau, du lait, du papier toilette. Ils prennent du papier toilette.
Face aux scènes de cohue de ces derniers jours, le gouvernement l'a rappelé. L'approvisionnement en nourriture sera assuré.
Des pénuries alimentaires, des scènes de cohue ici en France, mais aussi partout dans le monde. Quand je voyais ça, aux 13h, de ce bon vieux Jean-Pierre Pernaut, je n'y croyais pas. Des rayons vides impossibles. Eh bien si. Il faut se souvenir de ces rayons vides, vidés par des Français terrifiés de ne plus pouvoir manger de pâtes. Manon Mariani s'était payée une machine à pain. Alors elle a connu le même sort que celui destiné à son air fryer, petit ange parti trop tôt.
Il est toujours là.
Quentin, lui, était fidèle à lui-même. Il avait trouvé une magouille pour détourner des camions de nourriture et il revendait tout ça au marché noir.
Ça marchait bien, je me suis fait un paquet d'oseilles là-dessus.
Bref, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à la souveraineté alimentaire, à se demander si on ne devrait pas arrêter de dépendre des autres, un sujet devenu éminemment politique. Zoom Zoom Zen, épisode 531, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lhuy, Cyril Lacarrière.
Bonjour Aurélie Catalot.
Bonjour.
Vous êtes directrice Agriculture France pour l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'IDRI. En deux mots, l'IDRI, de quoi il s'agit?
C'est un think tank qui pense les conditions de la transition écologique.
Très bien, on va avoir le temps d'en parler. Vous allez nous expliquer pourquoi ce sujet nous concerne toutes et tous. Le temps pour moi de vous présenter deux représentants du souverainisme à la française. À tout seigneur, tout honneur, commençons par celui pour qui nourriture rime avec malbouffe. Qui propose chaque jeudi de commander du McDo? C'est lui.
C'est vous qui commandez.
Qui dévalise la machine automatique de ses paquets de Haribo? C'est lui.
C'est vrai.
Qui pratique le régime quotidien du merguez frites à la cantine? C'est lui.
C'est
en
vrai.
Plus, ce
Chipo.
Midi...
Chipo.
Ce midi, elles étaient très mauvaises.
Oui, très mauvaises.
Lui, c'est Quentin, lui. Et puis, je peux vous dire que ça vienne de nos belles campagnes ou des champs de nos agriculteurs, c'est le cadet de ses soucis. Ce qu'il veut, Quentin, lui, c'est mal manger. Pas manger, hein. Mal manger. C'est le pire d'entre nous. Et pour la bouffe, pareil. Quentin, lui, bonjour quand même.
Bah oui, bonjour quand même. Je suis le plus maigre. C'est marrant, ça.
Oui, alors bon.
Aussi, hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Alors, Quentin,
le plus fit.
Oui, si vous voulez. Alors, Quentin, j'espère que dans la rue, ils sont plus conscients que des enjeux de la souveraineté alimentaire que votre noble personne.
Bah, c'est la question que j'ai posée comme ça dans la rue. Déjà, est-ce que les gens savent ce que c'est que cette souveraineté alimentaire? Ont-ils des idées pour commencer à y réfléchir sérieusement? Et surtout, sont-ils prêtes à faire des efforts sur les avocats, le chocolat, les fraises en hiver, tant de choses qu'on importe, vous l'entendrez dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
À vos côtés, Aurélie Catalot, là, il s'agit d'un tout autre problème. Notre chère Manon Mariani est très attachée à la qualité des produits qu'elle consomme, elle aime le beau et elle aime le bon. Le souci, c'est dans la forme. Manon Mariani n'a pas été vue en train de consommer un aliment solide depuis 2018. Depuis,
quoi.
Elle s'applique à un strict régime liquide.
Gin, vodka, le vin, vraiment j'aime tout en fait.
Voilà, elle aime tout à condition que ça se boive. La rumeur court même qu'elle demande à son petit ami, pourtant un as en cuisine, de lui faire des carbonara en smoothie. Sa mâchoire n'a tout simplement plus l'habitude de mâcher. Bref, Manon Mariani...
Ah, c'est joliment dit ça, Cyril, oui.
Si on s'intéresse à ce sujet de la souveraineté alimentaire, que faut-il suivre?
Eh bien, le portrait d'un chef français que je vais vous faire, qui a ouvert un restaurant avec des produits 100% français. Il est dans le 11e, on ira le tester tous ensemble, peut-être.
Mathieu nous invitera.
Mais d'abord, Aurélie Catalot, dans un monde mondialisé, est-ce que ça a encore un sens de parler de souveraineté alimentaire?
Oui, ça a un sens tout particulier de s'intéresser à la souveraineté alimentaire parce que c'est un concept qui nous permet d'essayer d'objectiver un état des lieux, c'est-à-dire de nous demander... au-delà de l'idéologie, d'où vient ce qu'on mange, comment c'est produit et est-ce qu'on a la capacité à produire ce qu'on consomme dans notre pays ou au sein de l'Union européenne.
Pour lui, l'alimentation, c'est sacré. Peu importe d'où vient sa viande, du moment qu'elle est posée devant lui, dorée sur le dessus, saignante à l'intérieur, avec la petite sauce béarnaise à côté qui va bien. Et c'est encore mieux quand elle est servie par William, au bistrot Blériot, qu'on embrasse évidemment. Cyril, vous allez nous dire la souveraineté alimentaire, d'où ça sort.
Direction Rome, sommet mondial de l'alimentation organisé par la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous sommes en 1996. Une coalition de mouvements paysans du monde entier va se faire connaître, la Via Campesina. Je vous la présente, cette coalition est née en 1993, donc trois ans avant. Elle rassemble des millions de paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs et de travailleurs agricoles. Retour à Rome, donc trois ans plus tard, la Via Campesina dit ceci. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping, sans dépendance, sans diktat du marché mondial. Presque 30 ans plus tard, ça peut vous paraître de l'évidence. Pourtant, à cette époque, cette manière de voir les choses ne l'est pas du tout.
Et au milieu des années 90, on parle d'autre chose.
Oui, on parle en fait à ce moment-là de sécurité alimentaire. C'est-à-dire s'assurer que tout le monde puisse se nourrir où qu'on se trouve sur la planète. Et ça, ça a une conséquence. On importe, on exporte. Ce qui compte, c'est que tout le monde puisse manger à sa faim. Donc là, avec la Via Campesina, on change totalement de paradigme. Maintenant, il s'agit de pouvoir se nourrir par soi-même, de se nourrir grâce à ce qu'on produit chez soi. La position de ce mouvement de paysans, c'est une position militante, politique et sociale. Elle dénonce les méfaits de l'agro-industrie, des accords de libre-échange et des multinationales qui décident ce qu'on cultive et ce qu'on mange. Mais une fois qu'on a pris cette position, que se passe-t-il? Qui peut prétendre à cette souveraineté alimentaire? Sommes-nous égaux face à cet enjeu? Et est-ce que ça signe la fin de cette idée où chacun doit pouvoir manger à sa faim? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Aurélie Catalo, d'après ce que vient de nous dire Cyril, la souveraineté alimentaire s'oppose à la sécurité alimentaire, c'est ça?
Non, les deux notions ne s'opposent pas. D'ailleurs, la définition qui a été donnée était bien la définition d'origine telle que souhaitée par le mouvement paysan La Via Campesina. Mais ensuite, ils ont réussi à la faire inscrire dans une déclaration des Nations Unies qui est beaucoup plus récente. Elle date de 2018. On verra que déjà, là, le sens évolue un peu. Dans cette définition, la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples à définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires. Donc, en fait, dans cette définition-là, actée dans une déclaration des Nations Unies, la souveraineté alimentaire, elle vient introduire une notion de choix et une notion de vision du modèle agricole qu'on souhaite. Par rapport à la sécurité alimentaire, on ajoute donc le fait que oui, il faut que les gens puissent avoir assez à manger en quantité, en qualité, ça c'est la sécurité alimentaire, et on se pose la question de comment est-ce qu'on veut que ce soit produit, où on veut que ce soit produit. Mais c'est donc une dimension supplémentaire plutôt qu'une opposition.
Et donc la souveraineté alimentaire, c'est ne manger que ce qu'on produit?
Pas du tout nécessairement. C'est un peu l'acception politique qu'on a désormais du terme en France. Donc politiquement, de plus en plus, on assimile la souveraineté alimentaire à une notion d'autosuffisance alimentaire, mais là encore, c'est un concept qui à la base est un peu différent. En tout état de cause, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est beaucoup un indicateur de la vitalité économico-commerciale, on va dire, de notre secteur agroalimentaire, et donc ça amène souvent à s'interroger sur notre dépendance aux importations notamment.
Donc on arrêterait l'import, l'export ? Ou pas, non ?
Il ne s'agit pas du tout d'autonomie ou d'autarcie alimentaire.
Ouais, ouais.
Encore un autre concept, excusez-moi. Hein, mais
on les note.
En fait, la souveraineté alimentaire, encore une fois, telle qu'elle est utilisée politiquement en ce moment en France, et ça diffère largement de la définition des Nations Unies que j'ai donnée tout à l'heure, mais on cherche plutôt à s'assurer qu'on peut produire pour couvrir les besoins alimentaires en France, et on cherche même à avoir encore une capacité d'exportation en plus. Donc on cherche plutôt à réduire nos importations, assurer une bonne couverture des besoins alimentaires des Français, voire générer du surplus pour pouvoir continuer à exporter.
Est-ce que la souveraineté alimentaire implique aussi des programmes, par exemple, pour permettre à certains pays de produire mieux, par exemple en construisant des systèmes d'irrigation ou des serres?
Oui, la souveraineté alimentaire, on peut l'utiliser politiquement pour justifier absolument ce qu'on veut. Et selon les partisans, on va avoir des gens qui vont avec le même concept de souveraineté alimentaire, préconiser des solutions qui sont radicalement différentes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en France, 46% du poulet qu'on consomme est importé. Ce constat-là, en général, tout le monde se dit, bon, bah, il va falloir qu'on rééquilibre l'offre et la demande, ça nous convient pas en l'état actuel. Mais ce rééquilibrage offre-demande, vous avez un camp, entre guillemets, qui va proposer de le résoudre en augmentant l'offre en France, c'est-à-dire en augmentant la production de poulet en France, et un autre camp qui va essayer de le résoudre plutôt via la sobriété du côté de la consommation, en disant maintenant il faut qu'on mange moins de poulet importé en France. Et donc à partir du même concept politique de la souveraineté alimentaire, on arrive à des conclusions et donc à des plans ou des programmes politiques qui peuvent avoir des finalités très 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 différentes.
Entre ces deux options, laquelle vous semble préférable ?
Alors, sur la question du poulet, elle est très intéressante parce qu'elle nous amène à nous demander, peut-on seulement produire plus en France, tout en améliorant notre souveraineté alimentaire ? Le poulet en tant que tel, on pourrait, théoriquement, même si ça n'est pas sans conséquence sur l'environnement, mais ouvrir plus de poulaillers en France. En revanche, le poulet qui est consommé par les Français, c'est plutôt du poulet entrée de gamme, donc c'est du poulet qui est très gros consommateur de soja. C'est un poulet qui a besoin de soja pour grandir vite. Le soja, on l'importe massivement, très massivement. On en importe l'équivalent de 4 milliards d'euros par an en France, donc c'est vraiment un très gros poste d'importation. Ce soja nous vient des Amériques, c'est du soja OGM. Donc si on veut faire plus de poulets en France, on accroît simultanément nos importations de soja. Est-ce vraiment le meilleur calcul pour notre souveraineté alimentaire ?
Pas sûr.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lhuy, Cyril Lacarrière, sur France Inter.
Aurélie Catalot, spécialiste des sujets agriculture et du développement durable, est avec nous pour zoomer sur la souveraineté alimentaire. Aurélie, comment ça se construit la souveraineté alimentaire ? À quelle échelle ? Est-ce que c'est à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle de la continent ?
Il n'y a pas de règle puisque c'est un choix politique, donc c'est une décision politique de déterminer à quelle échelle on vise la souveraineté. Souvent, j'entends dire que ça n'aurait pas trop de sens de penser la souveraineté alimentaire à l'échelle strictement française, qu'il faut la penser à échelle européenne, parce que sinon, à échelle française, ce serait un peu le signe d'un repli sur soi malsain. Pourquoi pas ? Mais attention, les chiffres de la souveraineté ne sont pas nécessairement beaucoup plus roses à échelle européenne, au contraire. Un exemple qu'on aime bien donner à l'IDRI, c'est la souveraineté alimentaire incarnée par l'unité des calories. Et or, à l'échelle européenne, l'Union européenne, c'est une importatrice nette de calories et de protéines. C'est-à-dire que l'Union européenne, chaque année en moyenne sur les 10 dernières années, elle a importé 21% des protéines qu'elle a consommées et elle a importé 7% environ de ses calories. Donc le reste du monde nourrit l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne qui nourrit le reste du monde, ça c'est un indicateur qui nous semble être très important.
Et qui est
important.
En croissance ?
C'est relativement stable. Et en fait, c'est lié principalement à un phénomène qui est que nous importons, je l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure, nous importons énormément de protéines végétales pour nourrir les animaux d'élevage qu'on élève dans l'Union européenne et que là-dedans, on a une perte calorique et une perte protéinique. Et donc, comme on consomme et on produit beaucoup d'animaux d'élevage dans l'Union européenne, ça a plutôt tendance à générer un déficit calorique et protéique.
On sait que notre agriculture exporte plus qu'elle n'importe. Est-ce qu'en interdisant ou limitant nos exportations, on ne sanctionne pas nos propres agriculteurs d'éventuels marchés ?
Alors, là encore, le chiffre sur la balance commerciale est un peu à nuancer. En France, on a certes une balance commerciale qui est positive de manière générale. Sur 2024, c'était 11,9 milliards d'euros. Mmh. Donc, je vous donne tout à fait raison. Mais vraiment à nuancer sur deux aspects. Premièrement, le 11,9 milliards de 2024, il est à comparer. Je vous prie de m'excuser, c'est 4,9 milliards sur 2024, okay. 11,9 milliards c'était en 2011, donc on a vraiment perdu énormément sur les 15 dernières années. Et le deuxième aspect, c'est que certes on exporte plus qu'on importe en valeur par rapport aux pays tiers, mais par contre on est déficitaire par rapport au reste de l'Union européenne. Donc la France importe plus du reste de l'Union européenne qu'elle n'exporte elle-même sur le marché commun.
Vous prenez l'exemple des pommes. La France exporte de plus en plus de pommes, mais elle doit aussi en importer pour satisfaire notre propre consommation. Comment on en arrive à une telle situation ?
Alors, sur le cas concret des pommes, en fait, les chiffres, ils sont extrêmement variables d'une année sur l'autre. C'est vrai qu'en 2023, on a exporté et importé plus de pommes, mais en 2022, c'était l'inverse. On avait moins importé, moins exporté. Et donc, pour ce genre de produits en particulier issus de l'arboriculture, on a plus intérêt à regarder les moyennes quinquennales. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des telles fluctuations ? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Premièrement, comment est-ce qu'ont été les conditions climatiques chez nous et comment est-ce qu'elles ont été dans les autres gros pays producteurs de pommes ? Comment ont évolué les stocks ? Parce que les pommes, c'est un produit qui se stocke d'une année sur l'autre. Comment ont évolué les prix ? Et puis, après, il y a un facteur naturel qui est que chez les arbres fruitiers, il y a un phénomène dit d'alternance qui font qu'en général, on a une bonne année de production suivie d'une moins bonne année en volume. Donc, de toute manière, ça va varier d'une année sur l'autre et il ne faut pas forcément, sur la base d'une seule année, s'inquiéter de ce que ça révèle sur la souveraineté alimentaire de la France en pommes, par exemple.
Mais pour rester sur l'exemple des pommes, comment on explique qu'on exporte alors qu'on n'en a pas suffisamment pour nous-mêmes ?
Parce qu'en fait, la production, elle se fait pour différents marchés. Vous avez des pommes à couteau, vous avez des pommes pour la transformation, vous avez des pommes gala et vous avez des pommes golden. Donc, en fonction de l'évolution de la demande des industries agroalimentaires et du consommateur, bah, vous allez avoir plus ou moins besoin de recourir à l'importation ou aux exportations pour générer de la rentabilité des opérateurs français.
Est-ce que c'est un mot, souveraineté, qui est devenu un mot, un argument politique ? J'ai l'impression que les politiques l'emploient beaucoup, souveraineté, pour les médicaments, pour les industries, pour l'armée.
Le numérique.
Le numérique. Là, la souveraineté alimentaire, Emmanuel Macron en parle en ces termes-là, c'est devenu un enjeu stratégique et politique ?
Tout à fait, c'est un concept qu'on entend énormément politiquement désormais. Ça a été un peu rappelé en début d'émission, mais il y a quelques années encore, c'était vraiment le concept de sécurité alimentaire qui primait dans l'orientation des politiques agricoles et alimentaires, et désormais c'est le concept de souveraineté alimentaire qui s'est imposé, à tel point que la France a fait le choix de créer une loi d'orientation agricole qui a été adoptée par le Parlement en mars 2025, donc tout récemment, dont le titre premier est vraiment explicite, si on peut faire... plus que ça, reconquérir la souveraineté alimentaire de la France pour la défense de ses intérêts fondamentaux. Donc ça, c'est le titre premier de cette loi d'orientation. Et l'article premier nous donne une longue définition de la souveraineté alimentaire qui nous dit en gros que ça doit désormais être le cap de nos politiques agricoles. Donc en tout cas, pour le champ dans lequel je travaille, les politiques agricoles, c'est vraiment le concept phare désormais.
Justement, concrètement, qu'est-ce que ça apporterait à la France d'être pleinement souveraine sur le point de vue alimentaire ?
À nouveau, je vous retourne un peu la question. Peut-on seulement être pleinement souverain au sens où on serait parfaitement autosuffisant ? On le peut d'un point de vue strictement biophysique, mais à condition d'une évolution assez significative des régimes alimentaires dans ce cas-là. On ne va pas pouvoir produire toute la volaille pour tous vos sandwichs du déjeuner ou ce genre de choses. On a besoin d'envisager une évolution des régimes alimentaires vers moins de protéines animales notamment, si on veut redonner un peu de souffle, un peu d'air à la production végétale en France, parce qu'on a besoin de beaucoup de production végétale pour nourrir nos animaux d'élevage, donc du coup, beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais que par ailleurs on importe.
La souveraineté alimentaire, ça lui parle. Et ça lui parle d'autant plus que parmi ses innombrables activités, il y a une sorte de Tricastel version 21e siècle. Un industriel véreux qui veut nous refourguer du cassoulet en conserve, soi-disant made in Normandie.
Très bon, par
Quentin lui est fourbe, heureusement il est doué. Et ce complètement à la rue sera encore l'occasion de le constater. Enfin, à condition que Quentin, que vous n'ayez pas fait encore une de vos célèbres gaffes.
Bernard, vous avez quel âge ?
76 ans.
Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ? Vous êtes retraité, j'imagine ?
Non.
Non, pas du tout, Quentin. Alors,
à 76 ans, on travaille plus.
Qu'est-ce que les gens de la street pensent de cette souveraineté alimentaire ?
Il pleut sur Paris, je vais être honnête avec vous, je suis allé vers une vision plutôt dystopique d'une souveraineté alimentaire. Alors, je marche le long d'un boulevard et je m'arrête au feu du passage piéton. C'est ici que je fais ma première rencontre et si vous vous posiez la question, elle n'est pas à la retraite.
Je vais au taf en même temps.
On traverse ?
On traverse.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Juliette.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis comédienne et chanteuse. La souveraineté alimentaire.
C'est quoi ? De quoi on parle ?
J'en sais rien.
Bah oui, personne connaît ce mot. On parle beaucoup pourtant de souveraineté en ce moment, dans les médicaments, nos industries, notre armée. Alors, l'alimentation, je suis un peu surpris, ça ne l'inspire pas plus que ça, ce sujet ?
Ah bah si, carrément. Mais j'ai des potes qui sont partis justement dans les Cévennes, je crois, dans une ville quasiment en autonomie. Et ça m'avait renversé quoi. Enfin, j'étais là en mode, mais putain, mais c'est possible. Et c'est trop chouette.
Elle me dit qu'ils sont deux couples à vivre sur place à l'année. Alors ça ressemble à quoi la souveraineté alimentaire à petite échelle ? Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer ?
Tout le printemps, été, ils récoltent, ils font pousser, etc. Et du coup, ils ont des réserves pour tout l'hiver et ils sont vraiment autonomes. Et en termes d'eau aussi, ils ont tout un système qu'ils ont créé quoi. C'est du délire, c'est ouf. Il y a des poules pour les œufs. Bah, c'est un petit paradis quoi. Et l'été, ils font des retraites de yoga, ils ont des...
Ça va avec.
Ça va avec. Et pour aussi un peu gagner d'argent, enfin de l'argent parce que...
Oui, donc l'autosuffisance alimentaire à l'échelle de deux couples, ça marche pour un pays ?
Bah c'est ça. Pour un pays, est-ce que c'est possible ? On est quand même beaucoup, quoi.
Vous pourriez te passer du chocolat ?
Ah ouais, j'aime pas le chocolat.
Bon, alors le chocolat, le café, les avocats, les mangues. Et alors que lui remonte son col en se protégeant des gouttes de pluie, j'arrête ce monsieur qui plisse les yeux en découvrant le thème de Zoom Zoom Zen.
La souveraineté alimentaire, mais je suppose que c'est d'être... de ne pas être dépendant d'autres pays pour les aliments.
C'est-à-dire qu'on arrête d'importer et d'exporter ?
Voilà, c'est un peu ça, oui.
On va devoir faire une croix sur pas mal de trucs, hein ?
Probablement, oui. À mon âge, je suis adaptable, je peux me passer de la plupart des choses.
Il y a bien un truc dont vous ne pouvez pas vous passer.
Le sexe.
Non. Merci Philippe.
Waouh.
Allez, merci Philippe.
Ah ouais, vraiment.
Pour les vannes, on va Pour les vannes, on va peut-être laisser Harold Barbé faire en fin d'émission. Pour Philippe, on va être sérieux, il y a quand même eu une prise de conscience sur notre système.
On s'est aperçu avec des crises comme le Covid que ça posait des problèmes, la mondialisation. Alors qu'avant, l'échange était considéré comme uniquement positif. Il y a des ruptures de chaînes, notamment s'il y a des problèmes politiques. On peut avoir des embargos.
Donc ça raconte quand même un climat de tension dans le monde entier.
Oui, tout à fait.
Hey, le Covid, les crises, les conflits nous rappellent-ils que le confort alimentaire peut vite être menacé? Je sors une liste de produits qu'on importe à l'année, notamment l'hiver. Je croise la route de cette famille, du sucre de gaufre sur les joues des enfants.
Bonjour.
C'est quoi ton prénom à toi?
Jonas.
Jonas. Qu'est-ce que tu aimes manger? Là, tu vois, par exemple, je regarde une liste. Est-ce que tu aimes les avocats?
Non.
Pas trop. Les bananes?
Oui.
Alors, les bananes, on en produit en France, puisqu'il y a la Guadeloupe et la Guyane. Mais en revanche, on n'en aurait pas assez pour tout le monde, quoi.
On en prend en petite quantité.
Par exemple, est-ce que tu manges des fraises l'hiver, toi?
Non. L'hiver, on mange des trucs, de la raclette, des trucs simples à faire, quoi.
Oui, et puis, alors, niveau fromage à raclette, on est bon. Mais bon, le lait pour faire du fromage, la charcuterie, parfois, certains grands industriels importent aussi des produits ou de la matière première, donc pas si certain que ce soit si facile que ça. Ma dernière rencontre remplit un étal qui commence à reprendre des couleurs.
Bonjour.
Est-ce que vous avez joué des asperges?
Oui, asperges, de France ou d'Hollande.
Et les cœurs de bœuf, là?
Française.
Ah, donc la saison des tomates a commencé. Je lui parle de la souveraineté alimentaire. Nous sommes chez Imprimeur. Qu'est-ce qu'elle en pense?
C'est totalement impossible. En tout cas, moi, dans mon métier de fruits et légumes. Les gens, à l'heure actuelle, veulent manger du Made in France, mais ne connaissent aucune saison. C'est hallucinant. Nous avons de la garriguette, qui c'est une fraise précoce, c'est un exemple tout bête, mais là, qui commence début mars, on met de la garriguette, un produit français, sur nos étals, et les gens nous répondent que c'est pas de saison. Et quand il va faire beau en mai-juin, on n'aura plus de fraises, et les gens nous diront « Ah, vous avez que de la fraise de Belgique ». Oui.
Et ça veut dire qu'il y a un manque d'éducation dans ce domaine?
Il y a complètement une éducation. À l'heure actuelle, on me demande des pêches ou des nectarines. Mais les gens sont abrutis, c'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'ils entendent des choses à la télé mais ils y connaissent rien.
Il faudrait peut-être qu'on enseigne ça en cours, à l'école?
Oui, peut-être.
Les saisons, les produits?
Oui, peut-être. Maintenant, vive Picard. C'est pour ça que les gens n'y connaissent rien aussi. Picard n'aide pas.
Mâche pas ces mots, Cassandre. J'attrape une fraise quand même et je me dis que ça pourrait bien être un produit de luxe dans quelques temps. La souveraineté alimentaire, si elle doit arriver, prendra du temps, avec des mois avec, et forcément des mois sans.
Merci Quentin. Elle dit quoi, Cassandre? Que les gens sont débiles, c'est ça?
Oui, je crois. Elle est très tendre. Hein. Abruti. Je crois qu'on a dit abruti.
Abruti. Ça veut dire quoi, ça, Aurélie Catalot? Est-ce que ça veut dire que, au fond, on manque d'éducation sur les produits qu'on consomme?
Nous, à l'IDRI, on préfère sortir de cette idée de responsabilisation du consommateur individuel qui serait un idiot et qui serait complètement schizophrène entre ce qu'il déclare en tant que citoyen et ce qu'il met effectivement dans son caddie. On pense au contraire qu'il y a un énorme rôle de la distribution, dont les primeurs font partie, mais c'est essentiellement la grande distribution, un énorme rôle des industries agroalimentaires dans ce qu'ils offrent aux consommateurs, donc dans les produits qu'ils mettent en rayon, dans les produits qu'ils fabriquent, et c'est ça qui pour partie forge la demande. Si on met en rayon des fraises ou des tomates en février, les gens pensent que c'est de saison, et donc ils considèrent après que c'est normal de manger.
Donc c'est aux primeurs de se responsabiliser et à l'industrie des grands magasins, des grandes surfaces par exemple.
En partie oui, et il y a un rôle aussi de l'action publique, de l'État, des collectivités territoriales à mettre en place des mesures qui vont faire en sorte que ce qu'on appelle les environnements alimentaires des Français vont évoluer de telle manière à ce que ça devienne facile, pratique pour eux de consommer une alimentation durable et notamment française.
Mais il n'y a pas un vœu pieux derrière tout ça, c'est-à-dire de penser qu'un commerçant va se priver de mettre des fraises en hiver s'il en vend. Il y a aussi un principe de réalité à un moment économique.
Le commerçant individuel, en effet, c'est compliqué pour lui de se mettre en marche s'il est tout seul. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on a besoin de mesures politiques
qui font
en sorte que...
Qui interdit de vendre hors saison des produits qui ne sont pas de saison.
C'est une idée parmi d'autres, mais par exemple, pour la grande distribution, c'est difficile pour un distributeur d'agir tout seul s'il n'y a pas une action collective de l'ensemble de la distribution.
Je reviens quand même sur Juliette, qui nous parle de ses deux couples d'amis dans les Cévennes, qui vivent, eux, en autonomie. Alors, on sourit, mais c'est un début. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait se développer ? On pourrait convaincre les gens ou ce serait compliqué de retourner un peu comme au Moyen-Âge, quoi ?
Alors, le fait que ça corresponde à des aspirations de certaines personnes, c'est très très bien. Et il faut encourager, je pense, ce genre d'initiative. Après, soyons réalistes, dans le type de société dans lequel nous sommes, probablement que vous et moi n'avons pas accès
à
un jardin capable de nourrir notre foyer. Et ça, c'est pas ce vers quoi doit nous amener à court terme la réflexion autour de la souveraineté alimentaire. C'est plutôt de mettre en adéquation ce qu'on produit en France par rapport à ce qu'il est durable de produire en France et ce qu'il est sain de consommer en France.
Et justement, d'un point de vue purement pratique, comment faire pour vérifier que les produits qu'on achète viennent de France ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas.
En effet, parce que dans cette notion de souveraineté alimentaire, on s'arrête parfois à l'origine des seuls produits agricoles bruts. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est l'origine des produits agroalimentaires finis, mais aussi l'origine des intrants qui sont nécessaires à la fabrication. Et donc, évidemment que sur aucune étiquette, vous allez trouver la liste exhaustive des origines de toutes ces composantes. Donc, il y a des moyens faciles pour essayer de faire au mieux quand on le peut, quand on y a accès. C'est d'avoir, par exemple, recours à des circuits courts, aller se fournir auprès d'un paysan bio et local, ça, quand on le peut, évidemment, ça, c'est une certaine garantie. De manière générale, sinon, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre du consommateur d'être un génie éclairé qui va connaître les conséquences de tous ces actes d'achat. On a besoin d'une orientation politique qui définisse le système alimentaire de l'État français et dans lequel le consommateur considérera que c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus pratique d'aller consommer quelque chose qui a du sens et qui est durable.
Inter. Zoom zoom zen.
Rire avec la souveraineté alimentaire. Voilà le défi que s'est fixé la comtesse de Breuer, la Wonder Woman de notre équipe. Place au Zoom Zoom Test.
À Zoom Zoom Zen, nous produisons des déchets de gâteaux afin de nourrir Madeleine, la souris qui a eu domicile dans notre open space.
Ah, ça s'appelle Madeleine.
C'est une agriculture déraisonnée, basée sur les maple cream cookies, ramenée par Pierre Courade de son dernier trip québécois. Mais comme Madeleine est agile, elle varie son alimentation en tapant dans le carton poubelle de Matenot qui contient l'équivalent d'une ramette de papier de vieille chronique et des kilos de fruits secs énergisants. Vous l'aurez donc sûrement pas deviné, mais ce zoom zoom test est destiné à vanter les bienfaits de la souveraineté alimentaire. Manon est invitée en décembre à une soirée « Amenez ce que vous êtes ». Donc elle passe au Franprix et prend 4 bouteilles de Chablis et une barquette de tomates cerises made in France. Parce que les tomates qui viennent de l'étranger...
Ça me fait des gaz.
Un choix a priori éclairé. Manon a oublié que A. Chaque tomate bio qui pousse sous serre en France crame un verre de fioul. B. Une tomate produite hors saison en France génère 7 fois plus de CO2 qu'une tomate traditionnelle importée d'Espagne. C. Le bilan carbone d'une tomate sous serre française est pire qu'une tomate importée par camion depuis l'Afrique du Sud,
B.
en passant par l'Ouzbékistan.
C.
Eh bien, c'était les 3, monsieur. Voilà. Donc, consommer des légumes de saison. Voilà, c'est la petite astuce. Et dans mon scénario, évidemment, Manon prendra une bouteille de plus à la place des tomates cerises.
Ça fait sens.
Je vais quand même chez le caviste, respectez-moi.
Bien, excuse-nous. Pour cette prochaine question, on va tordre les idées reçues, dénoncer, jeter un pavé dans la mare, monter sur la barricade du gai-savoir, bref, parler économie. En 2022-2023, on se rappelle tous de l'inflation, notamment sur les céréales. Laquelle de ces affirmations est vraie concernant ce phénomène ? A. C'est à cause de Poutine. B. C'est à cause de l'argent. C. C'est à cause des moineaux qui mangent les récoltes.
C'est 3.
A et C.
Eh bien, c'était A et B, personne. Les amis, vous y étiez presque. Vous vouliez accuser les moineaux, quoi. Vraiment, c'est...
Oui,
ils n'ont rien fait, ils picorent.
C'est souvent de leur faute.
C'est pas grave, Quentin.
Ah si, je joue, moi.
Pourquoi on compte les points sinon ?
Ah oui, bon bah.
Et
alors attendez, parce que c'est bien la guerre en Ukraine qui a perturbé les cours mondiaux du blé, phénomène amplifié par les méchants spéculateurs. Voilà.
Coup de gueule.
Non, je suis comme ça.
Ah ouais, pas bien, là-bas.
Ça dénonce. Sinon.
Maintenant que l'ambiance est bien détendue, une petite question bien fun sur un truc qui est dans votre frigo et qui est super chiant à ouvrir. J'ai nommé A, la fenêtre d'Overton, B, les chakras, C, le fromage râpé.
C'est
bien sûr. C'est point Manon.
Non, mais c'est une blague.
Ah bah non, mais
c'est pas un vrai point, ça.
Non, mais en réalité, c'est une question à zéro point.
Voilà. Oh.
Mais quand on ajoute du râpé sur son petit gratin de coquillettes, on rajoute sans le savoir A, de la graisse de baleine, B, du bois d'arbre, C, beaucoup d'amour.
B,
C.
Beaucoup d'amour.
Ah, bien sûr.
Et oui.
Du bruyère,
le fromage, c'est de l'amour.
Veux,
voilà.
J'aime pas le fromage. Donc bon.
C'est de l'amour et un petit peu de bois. Voilà.
Bah oui.
Alors évidemment, moi, je vous parle pas du râpé hein, que Mathieu fait venir de Suisse dans une malle isotherme Louis Vuitton. Hein, mais dites-vous bien que si sur le sachet il est indiqué ingrédients divers, il y a de grandes chances qu'il y ait de la cellulose pour empêcher que les bouts de fromage ne se collent entre eux. Et comment on fabrique de la cellulose ? Eh bien, en faisant cuire des petits bouts de bois avec de la vapeur et des produits chimiques.
C'est fou, ça.
Quelqu'un veut des lasagnes au chêne ? Excellent. Pour terminer, partons sur l'île de Spitsberg en Norvège.
Ah oui.
Là-bas se trouve le projet
très connu.
Svalbard. On me met des bâtons dans les roues.
Ouais,
c'est un sabotage en direct. Ce projet qui est absolument essentiel pour la biodiversité et par conséquent pour la souveraineté alimentaire. S'agit-il de A, l'élevage d'une race de vaches préhistoriques dont le génome est commun à toutes les vaches laitières, B, la réserve mondiale des céréales cultivables de toute la planète, c'est la plus grande fabrique de tarama au monde.
B, j'ai dit avant.
B, je crois que c'est bon.
Point Quentin, on me dit. Bravo, effectivement. Depuis 2008, on a décidé de sanctuariser toutes les graines vivrières de la planète afin de préserver la diversité génétique. À 120 mètres de profondeur, 3 salles de 1500 mètres cubes, hein, y a du chiffre, hein, pour conserver les 10 000 variétés. C'est une chambre forte, géante, indestructible, même en cas de fonte des glaces. Voilà, vive la souveraineté alimentaire, vive les graines et victoire de Quentin.
Oh. J'ai cru que t'allais dire et vive la France. Mais bon.
Vive Quentin, lui, voilà, merci à tous.
Bon, exagérons rien. Merci, Marie de Breuer, on vous retrouve à 17h30. Il viendrait nous parler fourmis. Un peu bizarre.
Exactement.
On continue de zoomer sur la souveraineté alimentaire avec notre invitée Aurélie Catalo, directrice agriculture France pour l'Institut du développement durable et des relations internationales. Aurélie, est-ce que au fond, si on pousse le curseur jusqu'au bout, la véritable souveraineté alimentaire, ce ne serait pas simplement l'autosuffisance ?
Ça peut être une forme de souveraineté si c'est ce qu'on le décide, mais ça n'est pas nécessairement par ça que doit passer la souveraineté alimentaire. Comme on le disait tout à l'heure, la souveraineté, j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment une question de choix, de modèle agricole qu'on souhaite. Donc la souveraineté, elle suppose peut-être encore un nouveau concept qu'on n'a pas encore abordé, mais une forme de démocratie alimentaire dans laquelle on pose la question aux citoyens de quel est le type d'agriculture auquel ils aspirent, quel est le type d'alimentation auquel ils aspirent, et on fait en sorte que ce soit à ça qu'ils aient accès.
Alors justement, vous insistez sur le sujet, c'est quoi aujourd'hui le modèle agricole que l'on souhaite avoir en France ?
Je ne suis personne pour y répondre.
Non, mais vous pouvez l'analyser, le décrypter.
Ce que j'observe politiquement, c'est que c'est un débat qu'on a énormément de mal à avoir. Quand on fait la liste un peu des souhaits qui sont prononcés par les ministres de l'Agriculture successifs, on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On veut à la fois beaucoup d'agriculteurs qui soient très bien payés. On veut des petites et moyennes fermes, mais on veut être les plus compétitifs à échelle mondiale. On veut moins importer, mais on veut plus exporter. On veut lutter contre la précarité alimentaire, mais on veut aussi que les gens aient accès à une alimentation de qualité. Toutes ces choses-là sur le papier sont très bien, mais à un moment donné, si on n'organise pas un débat qui permet de faire le tri entre ce qui est compatible ou pas, on n'a pas dessiné un vrai projet pour l'agriculture, on a juste une liste de souhaits politiques qui ne forment pas un tout cohérent.
Et des lois, puisque fin mars, la France a adopté une loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi ?
Bah, Elle dit, je vous le disais tout à l'heure, article 1er, elle nous donne une définition de la souveraineté alimentaire qui est une définition toute personnelle de la souveraineté alimentaire. Enfin, maintenant, c'est une définition de l'État français, mais qui garantit le statut d'intérêt général majeur au fait de protéger, valoriser et développer l'agriculture et la pêche française. Et elle nous dit aussi qu'il va falloir qu'on atteigne tout un tas d'objectifs. C'est un peu ce que j'ai listé tout à l'heure, qu'il va falloir qu'on soit plus compétitif, il va falloir qu'on installe plus d'agriculteurs, qu'il va falloir qu'on réduise notre dépendance aux importations, qu'on privilégie l'approvisionnement national, mais en même temps qu'on garantisse la sécurité alimentaire mondiale, etc., etc., etc. Donc elle nous dit beaucoup de choses, cette loi. Et en plus, elle nous donne rendez-vous en 2026, puisqu'elle nous dit qu'il faudra qu'on organise une conférence sur la souveraineté alimentaire à horizon 2026, dans lesquelles les filières agroalimentaires françaises vont devoir définir leur stratégie à horizon 10 ans pour être plus souverain. Mais alors, est-ce que c'est une stratégie pour qu'elles exportent plus ? Est-ce que c'est une stratégie pour qu'elles importent moins ? Est-ce que c'est une stratégie pour qu'elles améliorent la qualité de ce qu'elles produisent ? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il faut dénoncer des traités comme celui signé avec les pays d'Amérique latine, celui du Mercosur ?
C'est une question très intéressante parce qu'en fait, elle appelle à deux niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse qui est très politique. Politiquement, ce qu'on observe, c'est que la conclusion de l'accord du Mercosur a fait qu'en France, il devient indiscutable avec les acteurs agricoles de discuter de la transition agroécologique chez nous. Les agriculteurs français, ils savent qu'on a signé un accord de libre-échange avec notamment le Brésil, pays dans lequel 80% des pesticides qui sont autorisés sont interdits dans l'Union européenne. Partant de là, les agriculteurs français, dans leur grande majorité, se disent « Eh ben, il est hors de question que moi je fasse des efforts sur le glyphosate ou les néonicotinoïdes, alors même que c'est quelque chose dont on a quand même besoin, évidemment, chez nous. » Et donc, politiquement, l'effet de l'accord du libre-échange en question, c'est d'avoir, comme je le disais, rendu indiscutable la transition agroécologique chez nous. Et donc ça, c'est pas un effet qui est très positif. Deuxième niveau de réponse à votre question, c'est quels sont les effets de manière générale des accords de libre-échange sur le secteur agricole français. Ce qu'on a pu observer empiriquement, c'est que les accords de libre-échange, ils augmentent les flux échangés, les exportations comme les importations. Donc on va davantage exporter probablement, mais on va aussi davantage importer. Ils vont aussi placer les agriculteurs français dans une logique de compétitivité prix, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à produire beaucoup, le moins cher possible, pour survivre à ce jeu de la mondialisation. Et donc ça va avoir pour effet des choses qui sont néfastes globalement pour l'environnement, comme la spécialisation des zones géographiques, la concentration, l'intensification, ça veut dire utiliser plus de pesticides par exemple. Et donc, par essence, les accords de libre-échange, ils sont peu compatibles avec la poursuite de la transition agroécologique chez nous.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Manon Mariani, elle aime manger, plus que faire à manger, ça je vous le dis. Car si j'en crois nos conversations, ah oui, niveau cuisine quand même, les dernières conversations c'était des pâtes aux pâtes ou des pâtes à rien. Heureusement que la vie vous a apporté sur un plateau un amoureux qui cuisine à merveille.
Oh, oui.
Il avait même fait un petit reproche à Cyril Lacarrière sur la façon dont il avait trop cuit son bœuf au Lidl.
Non, c'est pas ça le reproche, mais continuez. C'est pas ça le reproche, continuez.
Il avait dit quoi,
mon vieux.
Que la cheminée était pas bien.
Ça manquait d'une cheminée, je crois.
Ah oui, c'est ça. C'est vous dire si j'adore cet homme. Manon, loin de votre cuisine, il y a la personne à suivre.
Je vous présente Victor Mercier. Il a 34 ans, il est français et il est à la tête d'un des restaurants parisiens les plus en vue de ces dernières années. Il s'appelle Fief et il a une grande particularité. Tout ce qu'on y mange ou boit vient de France. Il n'y a par exemple pas de café, pas de chocolat, pas de vanille. Ne demandez pas un coca non plus, évidemment. Oui. D'ailleurs, il n'a pas choisi son nom au hasard puisque Fief signifie « fait ici en France ». Le message est clair. Et si le nom de Victor Mercier ne vous est pas inconnu, c'est parce qu'il a été un candidat emblématique de l'émission d'M6 Top Chef. Évidemment, il est d'abord contacté pour participer à la saison 8 de Top Chef, mais à l'époque, il est en plein tour du monde. Il repousse donc sa participation à l'année suivante et il intègre le concours en 2017 dans la brigade de Philippe Etchebest. Il arrive jusqu'à la finale qu'il ne remporte pas, mais on le sait, aujourd'hui, pas besoin de gagner Top Chef pour se faire un nom et percer. Victor Mercier en est la preuve puisqu'il ouvre donc Fief un an après sa participation. Il cuisine donc 100% français, mais des plats qui lui évoquent son tour du monde. Sur son site, sa cuisine est définie comme porté par le locavorisme, les circuits courts, l'agriculture raisonnée et les petits producteurs vertueux. Il fait partie de cette nouvelle génération de chefs engagés qui a fait de son engagement un véritable concept. Il a expliqué d'ailleurs au micro de notre cher Mathieu Noël sur Europe 1 à l'époque en 2019 que sa démarche avait du sens car il ne veut pas avoir un restaurant avec un bilan carbone fou en important par exemple son ananas du Costa Rica. Pendant le confinement, il a d'ailleurs publié sur les réseaux un manifeste pour la souveraineté alimentaire post-Covid-19. Il demande notamment à ce que les commerces, les politiques et tous les représentants de la gastronomie française soutiennent l'agriculture locale. Un engagement qui a eu un certain écho. 2 ans plus tard, Victor Mercier obtient sa première étoile au guide Michelin et cette année, pour la première fois, il a été décoré d'une étoile verte pour saluer sa démarche écologique. Le Graal pour lui et ses prises de position qui en font l'un des chefs les plus engagés de sa génération.
Merci Manon. Aurélie Catalo, il en faudrait plus des restaurants dans le même genre que Fief ?
Bah, déjà pour satisfaire nos palais, oui. Et ensuite, là on parle d'un restaurant gastronomique, donc on parle d'une fraction assez réduite oui. de nos prises alimentaires générales. Par contre, l'engagement de la restauration commerciale dans son ensemble, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la restauration à domicile et ce qui n'est pas de la restauration collective, ça fait partie des pans sur lesquels il faut agir maintenant, parce qu'il y a une part croissante quand même de notre alimentation qui se fait dans ce cadre-là, de la restauration commerciale, et ça va du fast-food au restaurant gastronomique avec tout un tas d'intermédiaires. Et bien sûr que là-dessus, il va falloir agir sur le rééquilibrage protéique, l'origine des produits, etc. Tout un tas de choses dont on a besoin pour améliorer notre souveraineté alimentaire.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lhuy, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Lors de son séjour au Canada, Pierre Courade a découvert avec effroi leur version de Top Chef. Déjà, l'émission ne s'appelle même pas Top Chef, mais les chefs, c'est un scandale.
Très belle imitation. Merci, Manon.
Bah oui, tout le monde t'a reconnu. Et puis, ils pensaient découvrir un programme de qualité comme ici en France, mais pas du tout. Les émissions sont nulles, ils ne savent pas cuisiner, les candidats sont nuls. Bref, heureusement, il s'est consolé avec la poutine locale et nous a même ramené des petits biscuits au sirop d'érable qualifiés d'immonde par Quentin.
J'ai dit que c'était tout chrétien. Ça
Bonjour.
Pas du tout, mais Quentin.
Peut-être tu es François.
Bon, au moins la petite souris est contente. Bonjour Pierre Courade.
La petite souris est contente, tout le monde est content. Bonjour Manon, bonjour à tous.
Tout ce qu'on s'est dit dans l'émission résumé en une minute. C'est
parti. En début d'émission, on a réappris que Manon ne mangeait que liquide, jusqu'à goûter à la carbonara en smoothie de son compagnon. Révélation de Cyril. On a frôlé la sortie de route. On a surtout parlé de souveraineté alimentaire aujourd'hui avec notre invitée Aurélie Catalo, qui travaille à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Une notion qui a une définition inscrite à l'ONU. Hein. Il s'agit du droit à une alimentation saine, culturellement appropriée et durable, et une garantie donnée au peuple à utiliser leur propre système agricole. La souveraineté alimentaire recherche en plus une bonne couverture alimentaire pour une région donnée, que ce soit la France ou l'Europe par exemple, mais ça c'est une question de priorité politique. Par ailleurs, la souveraineté alimentaire n'interdit pas l'import et l'export, mais oblige à un rééquilibrage sur l'offre ou sur la demande. Là encore, c'est un choix politique. Enfin, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas l'autarcie. Notre invité nous a d'ailleurs rappelé que la France ne pouvait pas produire tout ce que consomment les Français sans un changement profond de notre régime alimentaire. L'une des clés du souverainisme alimentaire, c'est avant tout de manger de saison, c'est ce qu'on a compris. C'est ainsi que Quentin, qui a le souverainisme musical chevillé au corps, chante désormais les cornichons de Nino Ferrer uniquement en été.
Merci Pierre. Bon, vous nous avez vendu une thèse, ça va.
Écoutez, je l'ai vendue. Hors antenne.
Oui, c'est souvent, c'est tout comme ça.
Pour lui, la souveraineté alimentaire est la résultante d'avoir trouvé la fève dans la galette des rois. Bonjour, Harold Barbet.
C'est vrai que j'avais pas super bien compris le sujet au début. Alors pour résumer, pour ceux qui n'arriveraient que pour le dessert, la souveraineté alimentaire, c'est en gros quand une autorité avec plein de guillemets décide ce qui est bien à consommer en matière d'alimentation pour toi, pour les autres et pour la planète. Chez les Barbet, par exemple, la souveraineté alimentaire, c'est mon épouse. Ah, elle est la suzeraine incontestée. Elle décide absolument de tout ce qui est présent sur la table. Même les sous-bocs doivent être validés en amont. Quand elle m'envoie un emoji aubergine, je sais que c'est parce qu'on va manger de l'aubergine. En plus, elle est végane, donc je peux vous dire qu'on ne consomme que des trucs de saison. Depuis le début de l'année, on mange du topinambour une fois par semaine. Alors, elle fait ça pour protéger la planète, mais ça nous donne à tous tellement de gaz que je suis pas certain que la planète y gagne vraiment au change. Pour la fête des mères, les enfants ne lui font pas un collier de pâtes, mais un collier de petits pois. Elle le porte, car elle aime beaucoup nos enfants. Bon, moi, le soir, je dors avec une femme qui a une odeur de siphon de lavabo. Mais quand on aime, on se bouche le nez et on se bat, voilà ce qu'on fait, quoi. Moi, ce que j'admire vraiment chez elle, c'est qu'elle est intègre. Elle a une conviction profonde et elle s'y tient. Elle est admirable. Alors que moi, je mène une double vie. À vous, je peux le dire, je trompe ma femme, c'est bon. Je mange de la charcuterie en cachette. Je cache du salami dans la boîte à gants du 3008. Je vais régulièrement bouffer des ramen dans le 10e. Je ne suis qu'un salaud. Je l'ai même trompé avec nos meilleurs amis. On s'est fait un Burger King à trois. Quand ils sont venus dîner à table, on s'est échangé des petits regards complices tous les trois.
en repensant à tout ce que Clarisse avait pu avaler ce jour-là. Et quand ma femme me servait, je lui mentais. Bien sûr que je reprends des endives, tu sais bien que j'adore ça. Je me dégoûte. Je me dégoûte autant que son gratin en brocoli. Merde, je devrais pas dire ça, si elle écoute l'émission, je suis mort. Je me suis transformé comme tous ces gens que je supporte pas. Je fais semblant et je fais la morale aux autres. Je suis devenu comme ce père de famille qui prononce le bénédicité et qui prétexte d'aller chercher du pain pour pouvoir farcir des prostituées dans un van. Mais j'en pouvais plus. Faut pas m'en vouloir. On a tous nos limites, on a tous un moment où on dit stop. Même mon épouse, elle prône la sauvegarde de la planète, mais elle est contre le fait que je fasse pipi sous la douche. Soi-disant qu'il faut que j'attende qu'elle soit sortie de la cabine. Mais le karma te rattrape toujours. L'autre jour, j'ai fait une biologie sanguine et on a trouvé que je faisais un peu de cholestérol. Quand j'ai ramené mes résultats à ma femme, j'étais aussi nerveux que quand je devais montrer mon bulletin scolaire à mes parents en 5e. Elle, forcément, elle était étonnée. Mais comment tu peux faire du cholestérol? Je te fais manger sainement tous les jours et en tournée avec ton excellent spectacle Relax Max tous les mercredis au Métropole à Paris. Tu fais attention, pas vrai? Ah bah oui, bah alors là, je comprends pas. Peut-être les topinambours, va savoir. Quand j'ai du tout lui avouer, je peux vous dire que j'ai mangé. Ben, j'ai mangé tout seul, déjà. Et puis surtout, maintenant, j'ai un petit tableau qu'elle m'a fait avec ce que je dois consommer chaque jour, comme en CP à la cantine. Alors bien sûr qu'il y a un côté insupportable chez les gens qui nous disent quoi faire et quoi manger, mais c'est le fait qu'ils aient un peu raison qui les rend insupportables. Moi, finalement, je trouve ça bien que quelqu'un me dicte ma conduite alimentaire. Ça n'en rend que meilleur, le burger que je me fais en cachette.
Merci beaucoup, Harold Barbé. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. On va bientôt beaucoup vous voir au mois de mai. Et je signale que vous êtes à Cogolin les 2 et 3 mai au théâtre Le Métropole. Vous l'avez glissé, je crois, dans cette chronique. Tous les mercredis soirs et bien sûr au fast-food du coin, juste à côté de la rue. Là, voilà. Rassurez-vous, on dira rien à votre femme.
C'est gentil.
Merci beaucoup, Aurélie Catalo, d'être venue nous voir dans Zoom Zoom Zen pour nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de la souveraineté alimentaire. Je rappelle que vous êtes la directrice Agriculture France pour l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'INRI. Merci encore.
Merci à vous. Zoom Zoom Zen.